Comme je disais ce matin, je voudrais vous proposer une réflexion sur le thème de la conversion. On peut se dire, mais on est déjà converti. Est-ce un sujet encore pour aujourd'hui? Mais plus que jamais, je suis convaincu que c'est un sujet très actuel. Très actuel. Vous savez, dans nos églises, on rencontre des personnes qui nous disent « J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. » Comme si cela était possible. Comme si cela était possible. Il y a des gens qui vont dire « Je suis né chrétien car dans ma famille, nous sommes plusieurs générations de chrétiens. Alors moi, je suis né chrétien. » Ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vais vous dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on soit né chrétien. Et ces derniers temps, alors, nous assistons à un type de conversion assez bizarre dans les églises. On entend souvent l'expression « Je lui ai fait accepter Jésus ». Ah, il est converti parce que je lui ai fait accepter Jésus. Il est sauvé. Ou encore, on voit des chrétiens qui offrent un Christ « light » sans besoin de repentance. Au point qu'on pourrait imaginer que ces personnes, quand ils présentent Jésus aux autres, aux gens, pas présentés, mais quand ils demandent aux gens s'ils veulent croire en Jésus, on a l'impression qu'ils croisent les doigts. Ils croisent les doigts pour se dire, pourvu qu'ils disent oui, pourvu qu'ils disent oui. Pourvu qu'ils disent oui. Des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile auparavant, à qui on promet monts et merveilles. Tout ira bien, vous verrez. Évidemment, j'ai pris ces passages ici parce que j'ai toujours aimé apporter l'Évangile, comme tous, je pense, aux autres. Et quand on est converti, on a envie de convertir tout le monde entier. Et alors, on se pose la question souvent de se dire, mais quand est-ce que cette flamme va s'arrêter? Ou alors, quand on voit quelqu'un qui aime parler de Dieu aux autres, on dit, mais il est tout feu, tout flamme. Vous verrez, avec les temps, ça va s'éteindre. Mais j'espère que ça ne s'éteigne pas. Que ça ne s'éteigne pas pour vous. Pascal disait que les hommes prennent souvent leur imagination pour leur cœur. Et ils croient être convertis dès qu'ils pensent à se convertir. Nous rencontrons des personnes qui se disent converties alors qu'en réalité, ils sont convaincus tout simplement de l'existence de Dieu. Et quand on leur demande, parce qu'ils nous disent qu'ils sont convertis, et quand on va leur demander à ces personnes des questions très très simples, s'ils ont le Fils dans leur vie, ou s'ils ont reçu Jésus et cru en son nom, ou tout simplement s'ils obéissent à la parole de Dieu, ils ne comprennent plus rien. Elles ne comprennent plus rien, ces personnes. Et quand on leur demande la chose la plus importante que Dieu a faite pour eux, ils ne savent pas que répondre, ou encore ils se lancent dans l'énumération des guérisons de telle ou telle maladie. Le sacrifice de la croix n'est jamais évoqué. Et quand il est évoqué, il n'est pas compris. Il n'est pas compris. Ce n'est qu'une formule. Ce n'est qu'une formule. Jamais la notion de ma culpabilité en tant que pécheur n'est mentionnée, ni le fait que Christ a payé à ma place. Ces personnes ne comprennent pas ça. Mais ils disent qu'ils sont convertis. On trouve des personnes qui se sont engagées dans une voie sans connaître les tenants et les aboutissants, sans connaître les enjeux. Si vous prenez l'Épître aux Corinthiens, ne prenez pas, chapitre 15, à la maison, vous lisez à la maison, vous allez voir que Paul nous rappelle que il va nous rappeler, bien que si nous retenons l'Évangile dans le terme dans lequel il a été annoncé, autrement nous aurons cru en vain. Et quand on regarde un peu le début de ce passage, qu'est-ce qu'on va voir? Que cet Évangile doit être retenu dans quel terme? C'est que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Et avec ça, on peut prêcher tout l'Évangile. Tout l'Évangile. Tout l'Évangile peut être prêché à ça, de ça. Force est pourtant de constater le nombre de conversions apparentes qui restent pratiquement sans suite. Sans suite. Mais alors, quelle est notre responsabilité, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Quelle est notre responsabilité là-dessus? Nous ne sommes pas responsables des conversions des gens. On le sait tous, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, comme Jésus nous le dit dans Jean 14 et 16. Vous savez, quand on fait l'œuvre d'évangélisation, on fait beaucoup de bêtises. On fait beaucoup de bêtises. Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises dans le passé, sur ma manière d'annoncer l'Évangile. Mais à l'intérieur de moi, j'ai toujours su qu'il y avait un problème, que quelque chose n'allait pas bien. Nous devons savoir annoncer et bien annoncer l'Évangile. Mais la question est de savoir, c'est quoi la conversion? Je pense que c'est une bonne question. Les choses sont bien quand c'est structuré aussi, parce qu'on peut savoir des choses, hein, plic-ploc, hein, mais quand c'est bien structuré, on peut avoir une bonne idée de la chose. Ne nous contentons-nous pas bien souvent d'un changement de surface qui se manifeste par une prière ou une parole attendue? On change l'emballage du cadeau, mais l'intérieur reste le même. Est-ce que ce n'est pas de ça, des fois? Ah, il a dit qu'il aime Jésus. Ah ouais, c'est fini. Il est converti. Une parole attendue. C'est ça qu'on cherche des fois. C'est la vie entière qui est concernée. Il ne s'agit nullement d'un petit secteur de la vie, mais toute la vie. Toute la vie de la personne. Il faut qu'on prenne au sérieux le sens même de la conversion. Son sens, c'est vraiment appeler à vivre une transformation intérieure radicale qui concerne les cœurs de la personne et qui ouvre à une vie nouvelle dans toutes ses dimensions. Le Seigneur utilisait un terme qu'on voit dans l'Ancien Testament avec la circoncision. La circoncision. Et là, il va nous dire la circoncision du cœur. Les personnes qui sont circoncises savent comment ça fait mal. Et Dieu veut que ce soit dans le cœur que cette circoncision s'efface pour nous. Cela peut se comprendre qu'il y ait de la résistance de la part des personnes vers qui la parole sera annoncée. Résistance envers la parole. Si vous prêchez quelqu'un et qu'il n'y a pas de résistance, vous devez vous dire qu'il y a un problème. Une fois, quelqu'un m'a dit, il faut savoir qu'à Ovelay, on a ce qu'on appelle on a une banque alimentaire, un service social qu'on appelle comme ça, nous, où les gens viennent et on leur donne de la nourriture pour le corps. Donc ils viennent recevoir un colis. Mais on a déterminé aussi, ça veut dire que ça se fait tous les jeudis à 16h, mais on a défini entre 15 et 16 une plage horaire où les gens entrent librement. Et pendant ce temps de 15h à 16h, ils écoutent l'Évangile, ils regardent le film sur l'Évangile, et on leur demande de jouer les jeux, de ne pas parler, de vraiment de rester attentif. Et ces personnes acceptent ça. Et on leur dit aussi que ceux qui ne viennent pas entre 15 et 16 auront la même chose que ceux qui viennent entre 15 et 16 heures. C'est pas parce qu'on vient entre 15 et 16 heures qu'on aura plus de colis alimentaires. Donc, et ils acceptent, ils jouent le jeu. Et on a vu avec le temps que beaucoup de gens viennent entre 15 et 16. On a des fois 35 personnes qui écoutent l'Évangile. On a eu des conversions, des gens qui ont pris leur baptême, qui sont à l'église aujourd'hui à Ovelay, mais qui sont venus par ces biais-là. Et une fois, une des personnes qui est dans l'équipe de la banque alimentaire me dit, « Ah, nous avons vu quelqu'un, nous lui avons parlé de Dieu, et il nous a dit que ça ne l'intéressait pas. » Et cette personne qui m'a rapporté ça me disait qu'il était étonné que des personnes aussi intelligentes, donc ils ont parlé de Dieu à quelqu'un, la personne a dit que ça ne l'intéressait pas, et il a répondu à l'équipe en disant, « Pour des gens intelligents comme vous, comment est-ce que vous pouvez croire à ces balivernes ?» Pourquoi ? Parce que cette personne était surprise que nous puissions croire que Dieu a créé l'homme, parce que lui croit à la théorie de l'évolution. Et alors cette personne me dit, « Si ça continue... » Si cette personne continue à répondre comme ça, il viendra plus jamais ici à l'église. Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, ah bon? Et une autre fois, il m'a dit qu'une personne qui vient entre 15 et 16 pour écouter l'Évangile avait une missèle avec lui et il a confisqué la missèle. Il a confisqué la missèle. Alors je lui ai dit, les gens sont libres. J'ai dit, les gens sont libres. S'il n'y a pas de résistance pendant que vous annoncez l'évangile et que vous voulez que tout aille comme vous voulez, alors les gens vont vous faire plaisir. Les gens sont libres. Et la conversion est un processus qui engage bien des éléments de la vie et qui demande du temps. Je surprends peut-être les gens, mais la conversion demande du temps, vous le savez. Une nouvelle conception du monde doit pouvoir se substituer à celle qui a été abandonnée. Et c'est la vie entière qui est concernée, pas juste l'adhésion à un groupe ou à une formule. Mon but ce matin, c'est vraiment de montrer que la conversion égale repentance et foi. Donc il faut qu'il y ait la repentance et la foi. Prenons nos Bibles dans Jean, chapitre 1, versets 5 à 14. Jean, chapitre 1, versets 5 à 14. Oh, c'est magnifique ça. Je vais lire celui-là. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est le verset qui m'intéresse, c'est celui-ci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Pourquoi est-ce que l'homme doit-il se convertir? Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, il va écrire bien aux chrétiens, il écrit aux chrétiens, et après qu'il va saluer les Romains, qui étaient chrétiens, qui étaient des chrétiens qui habitaient à Rome, il va rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ au sujet des Romains, de ce que leur foi est renommée dans le monde entier. Il est bien conscient qu'il s'adresse aux chrétiens. Il va leur dire qu'il a un vif désir de leur annoncer l'Évangile. Et qu'il n'a point honte, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand vous allez regarder le livre de Romains, de chapitre 1 au chapitre 3, vous allez voir que Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Et Romain dit aussi, je vais dire dans cet épître, Paul va dire, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. Il dit, la puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais, depuis la création du monde, l'intelligence peut le connaître à travers ce qu'il a fait. L'intelligence des hommes peut connaître. Les êtres humains sont donc sans excuse. C'est Dieu qui les a créés, et au lieu de rendre gloire à Dieu et le remercier, ils ne le font pas, mais plutôt ils adorent des objets. Ils font ce qu'ils veulent et adorent Dieu. Et alors Dieu le pousse vers des penchants de leur cœur. Dieu va pousser vers le penchant de leur cœur. Des passions infâmes. Et l'homme, à cause de sa désobéissance, va courir au péché. Quand Dieu n'est pas là, si Dieu retire son esprit, nous courons tous au péché. De même, quand Dieu va donner sa loi aux enfants d'Israël, ceux-ci n'obéissent même pas à la loi. Ils vont même commencer à juger les autres avec cette loi. mais pas eux-mêmes avec cette loi. La question qui s'est posée aux enfants d'Israël, est-ce que celui qui a reçu la loi est supérieur à l'autre n'en ayant pas reçu? Pas du tout, car ils sont tous sous le pouvoir du péché. Et Dieu va dire, car personne n'est juste, pas même un seul est juste devant Dieu. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu. J'ai souvent entendu des chrétiens qui disent, ah moi je suis venu à Dieu par moi-même, moi je l'ai cherché. C'est faux, personne ne cherche Dieu. Dans les familles, on voit des parents qui sont là, qui ont un enfant qui ne croit pas en Dieu et qui se mettent à genoux. C'est ce que j'ai passé le matin avec mon épouse dans la voiture. J'ai dit, il faut se mettre à genoux. Les parents vont se mettre à genoux des années et des années. Et un jour, Dieu va susciter, par quel moyen, on ne sait pas, quelqu'un qui va parler de sa part. Et finalement, on voit les personnes qui sont converties. Mais jamais, ça, on ne cherche pas nous-mêmes. C'est toujours Dieu qui fait tout. Ça vient de Dieu. Dieu nous donne. C'est lui qui donne le mouvement et l'être. C'est Dieu qui donne tout ça. On doit savoir se mettre à genoux. Et dans le Romain, il dit, tous ont quitté le bon chemin, ils sont tous corrompus. Personne ne fait le bien, même pas un seul. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut s'en rendre compte. Et quand nous regardons les hommes, ils suivent tous leur propre direction. Ils errent, ils vagabondent. En contraste, quand vous regardez les fourmis, vous allez voir, les fourmis, elles suivent tous un chemin. Vous avez déjà remarqué, hein? Ils suivent tous un chemin avec un objectif bien précis. Si vous mettez un pain là, vous allez voir, il y a une fourmi qui va arriver, il y a les autres qui vont suivre la même direction. Et si on prend un caillou, c'est méchant ce que je vais dire, mais si on prend un caillou et qu'on laisse tomber sur le tas de fourmis, vous allez voir, tous, ils vont toutes prendre leur propre direction. Ça, c'est les choses qu'on fait quand on est enfant. Hein, on ne réfléchit pas bien, on fait des choses comme ça. C'est vraiment une image de montrer comment les hommes prennent chacun leur direction, chacun sa direction. C'est ça la vie du pécheur sans Dieu. Il se sépare de la source de la vie quand il se révolte contre la loi de Dieu. Il rejette cette communion avec Dieu, il meurt. La vie nous donne le pouvoir d'agir, mais la mort nous enlève ce pouvoir. Dieu nous donne le pouvoir d'agir, mais la mort nous enlève ses pouvoirs. Il y a déjà la mort spirituelle. Il faut savoir que la situation sans Dieu est une situation dramatique qu'on peut qualifier de mort même de notre vivant. C'est la première phase de mort, suivie par la mort physique et par la mort éternelle, la condamnation à l'enfer. La mort éternelle est une existence qui est loin de la vie que Dieu a imaginée pour l'homme. C'est pour cela qu'on peut parler de destruction. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, ne soit pas détruit, ne soit pas détruit. Et quand on prend de la hauteur et qu'on regarde les hommes, prenez seulement de la hauteur, vous regardez les hommes, on assiste à un spectacle qui est pathétique. Souvenez-vous de Moïse, quand il revient de la montagne et qu'il voit les hommes adorer les veaux d'or. Il est étonné, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne cherche Dieu, les hommes vivent leur vie peinard dans le péché. Souvent, une image qui est donnée aux futurs baptisés chez nous, parce que je suis les baptisés, je leur dis toujours que quand vous regardez les hommes, même si vous ne le voyez pas, on a l'impression que sur leur front est écrit « tout droit en enfer ». Tout droit en enfer. On dirait des zombies qui avancent en dandinant, hein, comme des pingouins, contents de courir vers l'enfer. Content. Vous savez, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie, quand il vit dans le mal, pour lui, ce qui fait bien. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, ce qui fait bien. Il pense à rien. Il pense pas à Dieu, il pense pas à tout ça. Sa vie est bien. Il court en enfer, il est content. C'est pour cela qu'Éphésiens dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Les hommes n'ont pas demandé à Dieu, sauve-nous, c'est lui-même qui va décider de le faire. Et quand bien même on veut pousser le bouchon plus loin, et quand bien même l'homme qui va se dire c'est bon, ça y est, je vais respecter toute la loi, Jacques dit, quand on fautera sur une seule, on sera coupable sur toute la loi. Jacques est en train de dire qu'il est impossible à l'homme d'obéir à toute la loi. Si vous voulez faire ça, faites-le, vous serez sauvé alors. Mais Jacques est en train de dire qu'il est impossible à l'homme d'obéir à toute la loi. Notre nature pécheresse nous pousse à pécher. Nous pousse à pécher. On est incapable de faire le bien par nous-mêmes, éloigné de Dieu. Incapable. D'autre part, Galates dira, « Nulle chair ne sera sauvée par les œuvres de la loi, seule par la foi en Jésus-Christ. » L'homme ayant péché est condamné à mort. Dieu va rétribuer à chacun selon ses actes, selon ses œuvres. C'est seulement quand on a compris que Dieu rend à chacun selon ses œuvres que nous pouvons comprendre que Dieu fait grâce. La justice rétributive de Dieu exige les châtiments des coupables et aussi la croix. La grâce présuppose la justice de Dieu. Cette justice qui rend à chacun selon ses œuvres. Et Dieu, dans sa sagesse, va donner un moyen possible à tout homme, la foi, pour répondre à cette grâce. Et l'homme, dans sa condamnation, a le poids qui est lié à la faute. Parce que l'homme a péché, il s'est détourné de Dieu, il est condamné. Et quand il est condamné, il a la culpabilité avec deux facettes. Il y a la honte et le poids juridique. Je vais expliquer. Je vais vous lire ça, après je vais expliquer simplement. On peut avoir le transfert de la dette juridique, parce qu'on est en dette devant Dieu, mais pas la honte du péché. Sur la croix qui était notre place, Jésus va prendre notre place en ce qui concerne les châtiments, mais il ne devient pas pécheur pour autant. Il n'a pas confessé notre péché sur la croix. Il n'a pas porté notre honte, même si la croix est une mort honteuse. Jésus n'a pas porté notre honte. Il a porté nos souffrances. La honte, elle nous reste. Voilà. Ça, c'était quoi? Ça, c'était mon introduction sur la prédication. Maintenant, je vais prêcher. 5 minutes, c'est tout. C'est enregistré? Alors, je vais rester là. Si quelqu'un vient maintenant et qu'il attend ce que je vais dire, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette église où on parle de... Vous allez comprendre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire excrément? Oui, excrément. On va utiliser un mot simple, caca. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un vient maintenant, il attend qu'on parle du caca, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette église qui parle du caca? Ce n'est qu'une image que je vais vous donner. Un homme pécheur, c'est comme un homme qui est dans le caca. Il est dans le caca, il est en plein dedans, et il vautre dedans, il est en train de vautrer dedans. Hein? Comme un asticot. Il vautre dedans. Il est dans la plainte, dans les excréments. Mais ce qui se passe avec cet homme, c'est que ses yeux ne voient pas. C'est un aveugle. Et son nez ne fonctionne pas non plus. Il sent rien. Il touche. Mais quand il touche, il sent c'est bon. Il se dit, mais c'est bien là-dedans. Et il vautre. Et alors, à un moment donné, il va manger ça. Il trouve ça bien, il dit, mais c'est bon ça. Personne n'a jamais goûté, j'en sais rien. Mais lui, il dit, c'est bon. Cet homme dit, c'est bon, il est bien dedans. Il dit, ah, mais c'est bien. Il aime ça. Yeux fermés, nez bouché, il sait vôtre, il aime. C'est comme un asticot dans le purin. Il est là. Il est là. Mais ce qu'il oublie, cet homme-là, c'est que le caca va le tuer. Il y a du méthane dedans. Le méthane va finir par le manger et complètement le tuer. Donc, il va mourir. Il va mourir. Mais il ne sait pas. Il est dedans. Il aime ça. C'est l'image des hommes qui sont sur terre. Et quand ils sont dans ce péché-là, ils ne savent pas que c'est le péché. Ils aiment ça. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ce n'est que parce que Adam et Ève ont péché. Non, parce que nous, Romains 2 dit, ceux qui sont nés entre Adam et Ève et Moïse, ils ont eu aussi la même mort. Parce que la loi est écrite dans leur cœur. C'est pour ça que Dieu peut les condamner. Et ici, ils aiment ça. Ils aiment vivre là-dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand la parole nous dit que, au verset 9, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et quand la parole de Dieu arrive dans le cœur de cette personne, qui est dans le caca, qui vautre dedans, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette parole va toucher son cœur. Et petit à petit, il va entendre ça. C'est des choses qui sont nouvelles pour cette personne. Résistance. Mais j'aime ça, moi, dans quoi je suis. J'aime ça. Et ça va l'éclairer. Ses yeux vont s'ouvrir petit à petit. Petit à petit. Ça ne s'ouvre pas le même jour. Hein. Si vous venez annoncer l'évangile à quelqu'un le même jour, ça se peut, il n'a jamais rien entendu. Ça m'étonne quand même. Et ses yeux vont s'ouvrir petit à petit. Son nez va s'ouvrir. Son nez va s'ouvrir. Avec son nez, qu'est-ce qu'il va sentir? Il va sentir que ça sent mauvais. Il dit, ah, mais ça sent mauvais, ça. Avec ses yeux, il va voir dans quoi il est. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Vous pouvez dire, hein? Qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Il va vouloir sortir, hein? Pourquoi il va vouloir sortir? Parce que ça sent mauvais. Ça sent mauvais avec son nez, et à la vue de ça, il dit, non, qu'est-ce que c'est que ça? Et ses yeux vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est venue dans son cœur. Sans la parole de Dieu, cet homme n'aurait pas ouvert ses yeux. Il n'aurait pas ouvert son nez. Il faut que la parole de Dieu vienne faire le travail dans le cœur. Et là, il va s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il va faire, cet homme-là? Il a plus envie de goûter. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je mange pas ça, hein? Moi, je mange pas ça. Il va vouloir sortir. Ça, c'est la honte. C'est la honte, il va vouloir sortir de ça. Mais s'il n'y a pas Christ qui a payé, il ne sortira pas. Hein. La deuxième facette de la culpabilité, c'est que Christ a payé. Christ a payé pour nous. Il a payé à ma place. Et cette personne va vouloir sortir de ça. Et quand il va vouloir sortir de ça, ça c'est ce qu'on appelle la honte. Et la honte va pousser la personne à se repentir. La repentance, cette honte. Est-ce que cette personne qui va sortir de ça, qui est sortie de ça parce que ses yeux se sont ouverts, à votre avis, est-ce qu'il va retourner dedans? Il va pas retourner dedans. Hein? Pourquoi il va pas retourner dedans? Parce qu'il sait que c'est le caca. Ça sent mauvais. Ça pue. Il a vu ça. Et il sait maintenant que ce caca-là va le tuer. Et cette personne, cette honte, va le pousser à la repentance. Donc, il ne retournera pas dedans. Il ne voudra pas. Et Dieu va l'amener dans le royaume de son fils, du fils de son amour. Mais à votre avis, une personne qui a été directement à dire, ah, moi, je vais vers Christ, et dont les yeux ne se sont pas ouverts, ni les nez ne s'est pas ouvert, à votre avis, est-ce qu'il peut retourner dedans? Il a été éclairé, mais il n'a pas eu la honte. Il n'y a pas la honte de ça parce qu'il n'a rien compris. Et lui, il pourra retourner dedans. Parce que le péché, le caca, il peut encore continuer à le manger, il aime bien. Ses yeux ne se sont pas ouverts, son nez ne s'est pas ouvert non plus. Donc, il peut retourner dedans. Voilà un passage, un message assez court. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Vraiment pour vous montrer un peu la conversion, pour que vous vous regardiez vraiment quand vous apportez la parole de Dieu, ces différents points qui est important. Ces différents points qui est important pour qu'on ait des gens qui sont convertis, pour que nous puissions nous-mêmes comprendre la conversion, et quand nous amenons la parole de Dieu, que nous puissions savoir que la honte est importante et que la personne doit comprendre que Christ a payé pour lui, que Christ a payé à sa place. Également. Que Dieu vous bénisse.